franceinter.fr.
8h33. Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jouan.
Bonjour Patrick.
Sommet européen aujourd'hui et demain à Bruxelles avec de nouveau à l'ordre du jour la question des réfugiés qui continuent d'affluer.
L'hiver en effet ne dissuade pas les candidats à l'exil, nous dit la Croix. 3500 réfugiés continuent de débarquer chaque jour en Grèce. Un périple toujours aussi dangereux. Pour la seule journée d'hier, les corps de 3 personnes, dont 2 enfants irakiens, ont été repêchés au large des côtes turques. Mais après l'exode, c'est l'attente. Dans Télérama, récit douloureux de Sari, jeune Syrien de 27 ans, arrivé en octobre dernier à Mannheim, en Allemagne. Sari, qui n'a gardé de sa vie d'avant que quelques effets, à peine de quoi remplir une étagère, tue le temps dans ce camp de migrants, le temps d'obtenir son statut de réfugié. Un camp qui est un paradis en comparaison de la jungle de Calais, mais un paradis gris, mortellement ennuyeux. « On ne peut rien dire », murmure-t-il. « Vous nous donnez déjà l'asile et nous vous remercions pour ça ». Sari, qui vit avec ses souvenirs, sa vie à Deir ez-Zor, le printemps arabe, la répression, l'arrivée des hommes de Daesh, sa décision de fuir après avoir résisté. Sa traversée sur un petit canot, son périple sur les routes d'Europe, la peur des policiers, les pleurs de cette mère qui a perdu son enfant à la frontière autrichienne. Depuis ces 5 jours de course folle, le temps et l'espace se sont figés, raconte le journaliste Nicolas Delsalle. Sari vit en lui-même, il fuit les autres réfugiés et écoute tomber les feuilles de son premier automne et se répète comme un mantra pour tenir le coup. Ce n'est que le début, ce n'est que le début.
Sari, qui comme des milliers d'autres fuit la Syrie, photoshoc dans la presse, Hélène, pour montrer la réalité du régime de Bachar el-Assad.
Oui, une seule photo publiée dans Le Monde, édition datée d'aujourd'hui, une seule sur les 53 000 clichés divulgués par César, l'ancien photographe légiste de la police militaire syrienne, une seule pour montrer que ces images existent et qu'on ne peut pas évacuer leur existence, s'explique le journal à l'heure où l'on s'apprête à ne plus considérer le départ du dictateur syrien comme une priorité. Derrière chacune de ces photos, le terrible bilan d'abord du régime de Bachar el-Assad, mais aussi et surtout des vies. Ahmad, 14 ans, seul mineur pour l'instant identifié par Human Rights Watch. C'était juste un enfant, sanglote son oncle qui l'a reconnu. Un enfant au bras couvert d'hématomes, visage bleui, lèvres boursouflées. Un enfant arrêté par des policiers du service de renseignement de l'armée de l'air syrien, assassiné pour avoir téléchargé dans son téléphone une chanson satirique sur Bachar. Des photos et des vies donc sur chacune d'elles. Des photos surtout pour dénoncer ce que le régime cherche à cacher. Des photos de dévoilement et non de propagande. Et c'est sans doute cette subtilité qui a échappé à Marine Le Pen quand elle a tweeté hier au motif d'un bien futile règlement de compte avec un journaliste. Ces photos jamais publiées jusque-là des exactions de Daesh, notamment celle de James Foley, journaliste américain décapité par les hommes de l'État islamique. « Nous sommes profondément choqués », se sont émus ses parents. Témoignage à lire dans The Guardian. Faute morale, offense aux victimes, assène aujourd'hui en France le Parisien.
Encore une photo, Hélène, cette fois autour de la fameuse recomposition de la vie politique post-régionale.
Photo attendue, en tout cas, à Neuville-Saint-Va, dans le Pas-de-Calais. Et l'histoire retiendra peut-être que la fraternisation de la droite et de la gauche a commencé là, avec, sur le cliché, François Hollande et Xavier Bertrand, ce nouveau président de région élu grâce au Front républicain dimanche. Alors, je ne vous le cache pas, la Voix du Nord est plus intéressée ce matin par la nouvelle élection de Miss France qui aura lieu à Lille samedi, pour trouver celle qui succédera à Camille, une enfant du pays, à 8 pages dans le quotidien nordiste. Mais enfin, le journal nous montre tout de même ce monument, érigé en mémoire de ces soldats ennemis qui, un jour de Noël 1914, ont décidé de poser le fusil, échanger du tabac, un peu d'alcool, jouer au foot et aux cartes. Le président François Hollande n'a opportunément annoncé sa venue qu'hier pour baptiser ce symbole de la fraternisation. Et cette éventuelle fraternisation droite-gauche est analysée très différemment ce matin par Le Parisien qui titre avec un offensif le plan Valls-Hollande pour dynamiter la droite. Quand Le Figaro choisit lui, Hollande et Valls cherchent leur salut à droite. En attendant, la presse continue d'ausculter ce pays, ces territoires qui voient en Marine Le Pen leur seule planche de salut. Et je voudrais juste vous signaler un écho saisissant ce matin entre deux pays, deux populations qui disent avec les mêmes mots leur incroyance dans les politiques d'aujourd'hui. Vous parliez il y a un instant, Christine Angot, de séparation. Nous y sommes sans doute en France et ailleurs. En France d'abord, avec le reportage de Florence Aubenas du Monde en Thiérache, au nord de l'Aisne, des villages où Marine Le Pen est arrivée en tête dimanche dernier. Des jeunes tournent en rond avec leur mobylette sans savoir où aller. Des jeunes qui disent « le combat droite-gauche, c'était celui de nos parents ». Des jeunes qui affirment « on cherche la vérité, mais tout le monde nous ment ». Marine Le Pen, pour ou contre, c'est leur seul horizon politique. Nous, on va faire notre révolution, affirme-t-il. Il y a quelque chose du dénuement brutal des romans de Steinbeck, raconte Florence Aubenas, sur fond de briques rouges et de bocages. Écho donc avec un autre reportage à lire dans Libération pour illustrer la popularité de Donald Trump, l'autre Le Pen, titre Libé, avec une plongée dans l'Oklahoma, terre conservatrice il en est, mais où l'on retrouve exactement le même dénuement, le même sentiment d'abandon de l'État. Il faut faire 50 km pour trouver un médecin, un supermarché ou un shérif là-bas. Et les mêmes mots donc. Washington, c'est un gros système de copains, disent-ils. Ils soupçonnent même Barack Obama de préparer sa dictature avec l'État islamique. Alors oui, Trump, disent-ils, oui, Trump, parce que ça détruirait leur pouvoir à tous, ici donc, ailleurs. Même cause et, semble-t-il, mêmes effets.
Dans la presse ce matin encore, Hélène, premier témoignage de l'ex-urgentiste bayonnais Nicolas Bonnemaison.
Condamné en octobre dernier à 2 ans de prison avec sursis pour avoir donné la mort à une patiente en fin de vie, Nicolas Bonnemaison s'exprime pour la première fois depuis sa tentative de suicide. « J'ai été condamné pour assassinat. Suis-je un petit, un moyen, un grand assassin ?» se demande-t-il dans un entretien à Sud-Ouest. « Je ne peux pas supporter ce mot, je ne suis pas un assassin. » Nicolas Bonnemaison qui accuse « ce que j'ai pratiqué, dit-il, je l'ai vu faire dans tous les services, y compris dans celui où exerçait un des membres du Conseil de l'Ordre des médecins qui a prononcé ma radiation. » Et puis à Air France, pourquoi pas un référendum? C'est la piste envisagée par le PDG Alexandre de Juniac, nous révèle le Figaro Echo. Le dialogue social est au point mort depuis que deux syndicats ont claqué la porte la semaine dernière. Pourquoi faire plus d'efforts quand l'entreprise connaît de bonnes performances, disent les syndicats, quand la direction campe, elle, sur ses 1000 suppressions d'emplois pour améliorer sa compétitivité? Un référendum pourrait faire basculer le rapport de force en faveur de la direction, ou à l'inverse, en cas d'échec, renforcer les syndicats, note un expert en droit social.
On termine par de la lecture.
Le Figaro littéraire a demandé aux lauréats des grands prix littéraires de cet automne un beau livre à offrir à Noël. Delphine de Vigan, le prix Renaudot 2015, a choisi Paris Paradis de Nicolas Gilbert, journal photographique à travers 300 photos de la capitale. J'avais envie, dit Delphine de Vigan, de retrouver Paris, son âme. Paris Paradis est une douce échappée à l'heure où les fleurs déposées en hommage aux victimes des attentats jonche encore des trottoirs que la pluie ne lavera jamais tout à fait. Des livres, donc, sans doute, pour nous soulager un peu des maux du présent.